Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous voir ce matin. En tant que le Seigneur nous ait donné son souffle de vie, n'est-ce pas? Pouvons que lui être agréable dans nos vies. Vous savez, trouver un thème pour d'une prédication est toujours pour moi une multitude de grandes questions. Qu'est-ce que je vais apporter à mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire qui puisse les interpeller, qui puisse les intéresser et par-dessus tout, qui puisse les édifier, tout comme cela a été toujours le cas pour moi, lors de mes préparations. Eh bien, ce matin, je ne m'attarderai pas sur une prédication en tant que telle, mais je vous invite plutôt à une réflexion. Oui, une réflexion, la réflexion de deux situations de la vie d'un homme. La première va déstabiliser sa foi et sa relation avec son Dieu, et la seconde va le transformer et lui redonner sa joie de vivre pour son Dieu. Et bien sûr, nous irons en même temps glaner quelques versets dans la parole de Dieu sur des épisodes de sa vie, sans pour cela perdre notre fil conducteur sur le contexte. Et tout d'abord, je vous invite à prendre le psaume 51, s'il vous plaît. Le psaume 51. Je vais être très long ce matin dans mes textes, parce que les deux textes que j'ai choisis sont très longs. Et il n'y a pas de scène, donc nous prendrons un petit peu plus de temps ce matin. Je fais lecture au psaume 51. Lorsque David le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Ce psaume est le plus pathétique, impressionnant, bouleversant, saisissant, troublant même, mais tout aussi touchant dans sa caractéristique. Car il est écrit à un moment où la vie de l'homme, David, oui, c'est de lui qu'il sera question ce matin, où sa vie venait de basculer dans un drame terrible. Pour moi, pour mieux comprendre la gravité de la faute de David, je vous invite à prendre un autre texte avec moi qui se trouve en 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Je fais lecture. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Écoutez bien la fin du verset. Mais David resta à Jérusalem. Et c'est là l'erreur de David. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sous le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sous sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait être défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittien fut aussi tué. Verset 26, « La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. » Amen. Le texte est long, vous connaissez l'histoire. Et c'est vrai, en passant, nous constatons quand même que lorsqu'il le faut, Dieu défrale, il dévoile et raconte de les choses telles qu'elles sont, telles que se sont écrites, telles que sont faites. Le fait que Bathsheba soit enceinte, frères et sœurs, après cette relation, n'est pas accidentel. La Bible, si elle révèle la nature aimante et miséricordieuse de Dieu, dévoile aussi sans complaisance les méandres, les astuces et les ruses du cœur humain. Nous avons du mal, oui, nous avons du mal à comprendre comment un homme de Dieu comme David ait pu commettre un tel acte. Et cependant, le récit est là, le récit de ce drame terrible est là, décrivant avec précision non seulement les faits, mais aussi la façon dont David a programmé avec sang-froid, un sang-froid étonnant, l'élimination d'un mari qui était devenu gênant. Nous ne sommes plus devant un crime passionnel, nous ne sommes plus devant un coup de foudre de David. Non, nous ne sommes pas devant une réaction impulsive de David. Non, nous sommes bien en face d'un plan minutieusement élaboré, d'une mise en scène délibérée d'un assassinat crapuleux, fomenté par un homme pris au piège de son péché et voulant cacher son aventure avec la femme d'un de ses officiers, obligeant l'officier à rentrer chez lui pour coucher avec sa femme, pour qu'il puisse penser que c'est à la suite de cette relation que cet enfant est né. Ah, vous savez, il y a des moments et des circonstances où Dieu lui-même semble intervenir pour empêcher la dissimulation afin de mettre au jour une chose terriblement grave. Et dans cette affaire, on se rend compte que les différents stratagèmes de David ont tous échoué, le conduisant à l'irréparable. Quel drame! Nous avons tous et nous aimons tous parler de l'homme de foi. Nous aimons tous parler de ce vaillant homme et brave, de l'homme inspiré, de l'homme loin de l'Éternel, loin de l'Esprit de Dieu, dès sa jeunesse et dans la suite dont nous parle 1 Samuel 16. Nous évoquons avec admiration le fugitif qui épargne son ennemi et se réfugie sous la protection divine. Nous regardons vivre l'homme pieux, l'adorateur spirituel, le chantre des louanges de l'Éternel, dont les psaumes inspirés du Saint-Esprit nous édifient nous-mêmes aujourd'hui et nous encouragent. Et puis, tout à coup, suivent cet épisode tragique et dramatique, un moment de folie qui va entacher définitivement la vie du roi David. Il est dit de lui en 1 Rois chapitre 5, « David avait fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté l'affaire d'Uri le Héthien. » Comme quoi, quels que soient les péchés que nous faisons, il y a un reste, il y a quelque chose qui reste, et surtout lorsque nous les cachons. Cela peut arriver aussi à l'un d'entre nous. Mais lorsqu'on connaît David, on se dit, mais comment cela a-t-il pu arriver? Comment David, un homme de Dieu, puisse tomber aussi bas? Et oui, mais comment nous aussi aujourd'hui, encore des hommes et des femmes intègres, connaissent-ils des chutes soudaines? Comme souvent dans le processus des tentations et des chutes des êtres humains, la nature de l'homme David est à l'origine de cette histoire. Eh bien, si nous étudions bien son comportement du roi David, dans ses relations avec les femmes qu'il rencontre, nous remarquons qu'il est excessivement sensible à leur charme. Et pourtant, les femmes de l'époque ne s'habillaient pas comme nos femmes aujourd'hui. Profitant de sa situation pour en faire ses femmes les unes après les autres, David avait 6 femmes, plus Michal, sa première épouse, qu'il avait fait revenir, rappelez-vous. Puis aussi des concubines, se constituant un harem. Ce qui était dans la culture de l'époque, je vous rassure. Surtout pour un roi. Il nous est dit en 2 Samuel 5, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem alors qu'il fut venu à Hébron et il lui naquit encore des fils et des filles. Et c'est là, frères et sœurs, c'est là justement à Jérusalem que se situe l'épisode dramatique de la vie de David. Frères et sœurs, chers amis, il y a des écrits qui doivent nous faire réfléchir afin d'en tirer aussi des instructions et des avertissements pour nous. Cette histoire tragique de la vie de David nous place en face des faiblesses qui font hélas partie de la nature humaine et qui n'épargnent pas les hommes et les femmes les plus spirituels encore aujourd'hui. L'évangéliste Marc nous dira au chapitre 7, verset 21, « C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, la folie. » Frères et sœurs, nous devons être et rester lucides afin de nous tenir sur nos gardes de peur que nous ne soyons pas tentés, en veillant et en priant afin que nous ne tombions pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans cette histoire, dans cette affaire, David a certainement manqué de vigilance. Et le fait qu'il ne soit pas allé, rappelez-vous, il est resté au lieu d'aller au combat, il est resté là. D'habitude, David partait au combat. Et ce jour-là, il reste là, il reste dans le palais royal. Et c'est là, ça va lui coûter sa chute. Oui, comme d'habitude, David partait au combat avec ses troupes et cela révèle ce jour-là pour lui une grande faiblesse. Cela nous rappelle une chose que chacun d'entre nous, oui, personne ne devrait oublier, c'est que l'homme le plus spirituel peut tomber. peut-être pas dans le même péché de David, mais l'un des péchés cités en Marc chapitre 7, verset 21, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la méchanceté, le dérèglement, le regard envieux, ça a l'air d'être peu de choses, mais c'est un péché aussi grave que le péché de David. La calomnie, l'orgueil. Mais en 1 Samuel chapitre 12, verset 1er, il nous est dit que l'Éternel envoya son prophète. Oui, il va se passer quelque chose dans la vie de David à ce moment-là. Dieu va envoyer son prophète Nathan vers David. Et Nathan vient à lui et il dit à David, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, un grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. » Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma quand il entenda Nathan raconter cela. Et sa colère s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'homme, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Combien de fois nous aussi, nous accablons les autres sur leurs péchés alors que nous oublions que nous en avons un mort aussi dans notre placard. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. J'ai retenu dans ce discours, dans cet échange avec de Nathan et David, j'ai retenu 2-3 choses. Premièrement, Dieu ne nous quitte jamais des yeux. On peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Dieu ne nous quitte jamais des yeux. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons ou les actions que nous commettons, non seulement il nous voit, mais il intervient pour nous racheter, pour nous arracher au mal. C'est ce qu'il fait pour David en envoyant son porte-parole, le prophète Nathan. La deuxième chose, c'est que Dieu agit toujours en notre faveur. Même si c'est un non, Dieu agit toujours en notre faveur. C'est toujours pour notre bien. Car il nous aime et il utilise de nombreux moyens pour nous faire parvenir ou revenir à notre bon sens. Rappelez-vous Balaam, en 2 Pierre chapitre 2 verset 16. Le Seigneur fit parler une ânesse. La troisième chose, David semblait aveuglé. Aveuglé concernant sa situation dans cette affaire. Lui qui était prompt à punir un homme riche et qui aurait voler la brebis du pauvre. Nous pouvons être étonnés de ce que David ait pu avoir à la visite du prophète pour en prendre conscience de sa situation. Et encore, il a fallu quand même que Nathan lui fasse comprendre par une parabole ce qui était prudent pour le roi, car David était quand même dans une situation colérique, dans un esprit assez irritable. Et là, Nathan a utilisé cette parabole pour lui faire comprendre cette situation. Mais dans l'échange que je viens de vous citer, avez-vous remarqué quelque chose? Il y a une question que je me suis posée. Certainement vous aussi. Mais vous êtes-vous posé la question? Qu'est-ce qui a pu toucher à ce point le cœur de David dans le discours de Nathan au point de le secouer de la sorte? Eh bien, 5 mots. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. C'est la parole qui a touché le cœur de David. Oui, Tu penses que le riche est comme ça, mais toi, tu es cet homme-là. Alors, soudain, David est mis en face de la gravité de son péché. Il a eu honte et a profondément été bouleversé. Et oui, Dieu sait trouver l'accès de notre cœur par la parole qui va provoquer le déclic, par la parole qui va animer notre conscience et nous amener à la repentance. Et le roi David dira à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Tu es cet homme-là. Tu es cette femme-là. Je suis cet homme-là. J'ai péché contre l'Éternel. C'est alors que dans le psaume 51, verset 3, il nous rapporte sa profonde tristesse, David, et sa honte. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Devant moi, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Le roi David confesse sa faute. Il admet que par nature, il a tendance au mal. Il admet que par nature, il a tendance au mal. Et comme il le dira aussi dans le psaume 32, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Et tu as effacé la peine de mon péché. Quel soulagement pour David. Frères et sœurs, il est essentiel, il est primordial, fondamental d'avoir un cœur honnête, d'avoir un cœur sincère. Car l'homme heureux à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité est dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. L'homme heureux, la femme heureuse, c'est celle-là, c'est celui-là. La repentance, oui, la repentance est la seule condition, oui, la seule condition qui permet d'être pardonné et retrouver la paix, comme le proclame David. Tant que je me suis tué, oui, tant que je cachais mon péché, tant que je ne disais rien, tant que j'avais tout couvert pour que personne ne puisse rien voir. Eh bien, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chez stress comme celle de l'été. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Je t'ai fait connaître mon péché. Et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Je vous cite quelques passages dans la même pensée. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Je ne garde pas ma colère à toujours. C'est ce qu'a fait le fils prodige. Vous vous rappelez, en Luc chapitre 15, qui avait quitté la maison familiale pour vivre sa vie. Il nous est dit, étant rentré en lui-même, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père et nous connaissons la suite. Mes amis, frères et sœurs, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jean 1,9 nous dira que nous connaissons tous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais revenons à notre psaume 51. Le psalmiste nous instruit. Le psalmiste nous instruit sur la façon dont il a prié avec ferveur pour être pardonné et retrouver la communion avec son Dieu, la joie du pardon et du salut. Aie pitié, ô Dieu, de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Quelle confession! Quelle confession! La vérité au fond du cœur, voilà le secret. Reconnaissant sa transgression, reconnaissant son péché et acceptant aussi la justice de Dieu. Parce que ça aussi, il faut l'admettre. Accepter la justice de Dieu par rapport à notre péché. Oh oui, nous sommes pardonnés. Mais Dieu est un Dieu juste. David accepte la décision du jugement divin, quel qu'il soit. Puis, tout en faisant le constat de sa nature pécheresse, il assume sa propre responsabilité. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Seigneur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors je reconnais, Seigneur. Dieu veut, frères et sœurs, que nous soyons vrais. Dieu veut que nous soyons honnêtes. Or, souvent, comme Adam et Ève, lors de leur chute, nous rejetons la faute sur quelqu'un d'autre ou sur les circonstances. Frères et sœurs, il faut savoir aussi que le péché, même pardonné, entraîne des conséquences. Rappelez-vous ce que Nathan dit à David dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 10. Il lui dit, « Maintenant, oh oui, tu as reconnu ton péché, tu as péché, tu as reconnu ton péché, tu as demandé pardon. Ok, ça marche, tout baigne. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Et là, David dit à Nathan, il reprend, « J'ai péché contre l'Éternel. » Oui, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » Oui, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils qui t'est né mourra. Vous savez, autrefois, sous l'ancienne alliance, pour la purification, le souverain sacrificateur faisait l'aspersion du sang d'un animal sacrifié avec une branche d'hysope. Vous pouvez lire ça en Lévitique chapitre 14. Et David, par son comportement, par sa confession, il croit à l'efficacité de la grâce de Dieu qui purifie entièrement. Il croit à l'efficacité de la grâce de Dieu qui restaure. Il croit à l'efficacité de la grâce de Dieu qui redonne la joie du salut. Et c'est pourquoi il prie en ce sens. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oui, rappelez-vous, les eaux, tant que je me suis tue, mes eaux se consumaient. Eh bien ici, les eaux vont se réjouir, les eaux de David vont se réjouir. Aujourd'hui, pour nous, bien évidemment, le sang purificateur est celui de notre Seigneur Jésus-Christ qui purifie le pécheur repentant. Et Hébreux chapitre 9 nous donne cette indication, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, ne purifiera-t-il pas votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et en 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, il nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Eh bien oui, l'homme pécheur qui revient de tout son cœur, en toute sincérité, peut retrouver le bonheur de la communication avec son Dieu et la joie de son service. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. David, ici, aspire à être délivré du fardeau de son crime. Et au verset 14 de notre psaume, il dira « Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta louange, ta miséricorde. » Nous trouvons en David un homme qui ne traite pas son péché, son propre péché à la légère. Il est profondément conscient de la gravité, de sa gravité, de son péché. Et il veut être pardonné et surtout délivré du sang du riz. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous savez, le péché, par le sentiment de culpabilité qu'il entraîne, nous tient dans la confusion et nous ferme la bouche. Tant que je me suis tué, tant que je me voyais coupable, tant que je me sentais coupable, eh bien, cela nous ferme la bouche à notre confession. Le psaume 107 le dira, « Toute iniquité ferme la bouche. » Et un Jean 3 se prolonge dans ce sens en disant, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. En pardonnant notre péché et en nous purifiant de notre souillure, Dieu rétablit notre communion avec lui et l'Esprit Saint inspire à nouveau notre cœur à la louange. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange, dira David. Enfin, le psalmiste nous apprend que nos sacrifices ou nos œuvres pour retrouver notre place avec le Seigneur sont vains. Mais que seule la grâce de Dieu répond aux besoins du pardon d'un cœur réellement repentant. Il le sait, David, il le dit. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas, tu ne méprises pas, tu ne négliges pas un cœur brisé et contrit. En gros, un cœur repentant. Et malgré sa faute, malgré que sa faute ait eu des terribles conséquences, David a été réellement pardonné. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras plus. Tu ne mourras point. Et la naissance d'un enfant de la même femme, Bathsheba, a été la preuve tangible du pardon de Dieu. Il est dit, 2 Samuel 12, 24, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Et il est dit, vous savez ce qu'il est dit de Salomon? Il est dit de Salomon que Salomon fut aimé de l'Éternel. Salomon fut aimé de l'Éternel. En Ésaïe chapitre 43, il est dit, Dieu dit à son peuple, tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Vous rendez compte? Tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais moi, c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. En Hébreux 10, il nous est dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je leur écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Amen. En conclusion, je vais vous demander simplement de vous rappeler ce que David a dit dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, frères et sœurs, c'est ce Dieu-là que nous avons. Le même Dieu qui a fait ça pour David, c'est le même que nous avons. Et c'est le même qui est capable de le faire pour nous, pour toi, pour moi ce matin aussi. Oui, avec David, bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour la réponse de sa grâce à chaque fois que nous revenons à lui, confus et contrits. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. J'ai cherché un titre pour ce message et j'en ai trouvé qu'un. Il y en a peut-être certainement plusieurs. Le titre que j'ai donné au message, c'est « Le retour d'un cœur repentant ». Le retour d'un cœur repentant. Alors, nous, ce matin, avons-nous des difficultés? Avons-nous des péchés? Avons-nous des choses dans nos vies? Avons-nous quelque chose à partager comme David? Avons des transgressions et ne faisons pas comme lui tout au début. Tant que je me suis tu, c'est une souffrance. Je suis dans la souffrance, je suis dans la difficulté. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur vous réconforte et que le Seigneur vous fasse grâce. Au nom de Jésus, Amen.
Amen.